cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Chaudard le 4 février 1993.
De dépendance. Elle fonde pas l'intelligence, il n'y aurait pas la liberté. La liberté n'est pas dans l'intelligence. Mais sans l'intelligence, il n'y a pas de liberté. Pourquoi ? Parce que l'intelligence saisit quelque chose de radical, la raison d'être, la raison de bien. Elle est capable de saisir l'universel. Et l'universel me permet de me situer au-delà de toute la contingence. Donc me libère de toute relativité. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que substance et recherche de la vérité, les deux me permettent de comprendre ce qu'est mon autonomie personnelle. L'autonomie radicale de la substance et la conscience que j'ai de mon autonomie. Alors, celle de la recherche de la vérité n'est pas première, c'est sûr, puisque ma recherche de la vérité implique tout un cheminement. Si ça implique un cheminement, je deviens de plus en plus autonome. Et j'en ai conscience. Tandis que l'autonomie radicale de la substance est quelque chose qui m'est donné. Tandis que je conquiers une autonomie grâce à mon intelligence et la recherche de la vérité. Et tu restes une expérience que nous faisons tous. Quand nous avons travaillé la recherche de la vérité dans un domaine et qu'on croit avoir atteint la vérité, on est libre à l'égard de tous les autres qui vous racontent des balivernes. On dit, mais c'est pas ça. Cherchez la vérité, vous verrez. On se libère. La vérité vous libérera. Ça, on doit faire l'expérience. On ne s'appuie pas philosophiquement sur ce texte comme un texte divin, mais ce qui exprime une expérience que nous pouvons tous faire dans un domaine où nous avons cherché la vérité. Prenez dans le domaine politique. Combien de personnes sont complètement dépendantes des propagandes ? La dépendance des propagandes aujourd'hui, ou de la propagande aujourd'hui, c'est l'esclavage du peuple. Et les gens ne s'en aperçoivent même pas. Ils sont esclaves. C'est-à-dire qu'ils sont totalement dépendants. Ils n'ont pas d'opinion personnelle, parce qu'il n'y a plus de recherche de vérité. Alors, ils dépendent. Oui. Et là, on voit bien que lorsque vous cherchez la vérité dans un domaine, mais vous pouvez dire, mais écoutez, non, il y a des faits qui sont suffisamment nets pour que je puisse avoir mon idée, je puisse rechercher la vérité, et dire là, pas le droit. Alors ça vous montre bien, et c'est bien sous ce point de vue-là, ce que j'avais peut-être pas assez montré. Substance donne le fondement de l'autonomie et la recherche de la vérité par le point de vue de l'esprit me donne conscience de cette conquête toujours plus forte de mon autonomie. Si on avait des appareils qui pourraient permettre de jauger l'autonomie de chacun, on la jaugerait en fonction de la vérité qui est en lui. Suivant qu'il est plus ou moins possédé par la vérité. chaque fois vous êtes un peu plus possédé par la vérité, vous vous libérez. Or, voyez, c'est là l'importance de la philosophie. Puisque la philosophie seule peut me faire comprendre en profondeur ce qu'est la personne humaine. Qu'est-ce qui me libère le plus ? C'est la sagesse. Et la sagesse philosophique. Parce que je l'acquiers, celle-là. Alors, quand on acquiert quelque chose, on en a une conscience beaucoup plus aiguë. C'est évident que la sagesse mystique me donne une autonomie bien plus profonde dans l'amour. Mais je ne l'acquiers pas, celle-là. Elle m'est donnée. Tandis que la sagesse philosophique, quand elle est acquise, elle me permet d'en user quand je veux. Vous ne pouvez pas utiliser quand vous voulez de la sagesse mystique. Vous direz, j'attends l'heure de la grâce. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dit tout de suite, est décidé, attendez, c'est pas moi qui décide. Philosophiquement, je pourrais le dire tout de suite. Et on ne respecte pas suffisamment les niveaux. Si on est au niveau philosophique, on peut dire ceci. Mais on vit au niveau mystique. C'est-à-dire, vous êtes en contradiction avec vous-même. Mais non. D'un côté, c'est ma connaissance qui dit ça. Et de l'autre côté, c'est ma vie mystique. Mais celui qui n'a pas fait la distinction voit tout de suite. Ah, c'est confondu. Mais non. L'homme est complexe. Et la vérité est complexe. Elle n'est pas simple. Ce serait l'univocité, ça. Et c'est ce qu'a dit l'univocité. C'est la mort de l'intelligence. Oui. Il y a tout un contexte qui fait que telle parole, telle affirmation dans tel contexte veut dire ceci. Vous le retirez du contexte. C'est là la subtilité de la recherche de la vérité. Bon, ça c'est très très important parce que, voyez, ça fait comprendre du reste au point de vue profond l'importance des études philosophiques. C'est pour chacun d'entre nous une conquête d'autonomie. C'est pour ça que les vieux spirituels disaient au début de l'ordre aux noviciats, pas trop d'études parce que ça les empêche d'obéir. Pas trop d'études pour un religieux parce que ça l'empêche d'obéir. Ça fait que l'obéissance est beaucoup plus difficile parce qu'il voit tout de suite que c'est supérieur quelquefois. Ne sont pas tout à fait au même niveau. Alors c'est plus difficile. On peut dire l'inverse. C'est excellent d'avoir ça pour obéir vraiment divinement. Vous obéissez parce que ce sont des représentants de Dieu auprès de vous. Ce que disait le Père Sertilange, cette petite parole du Père Sertilange, il me ravit. Parce que c'était le bon Père Sertilange qui disait ça, il lui savait à peu près ce que c'était. À la fin de sa vie, un jeune père se précipite sur lui et puis dit « Ah, c'est pas tant, on vient d'élire un jeune prieur. » Alors, il nous comprendra. Ce sera facile de lui obéir. Le père Sertilange lui répond « Ah, vous n'êtes pas fier. » Alors, il regarde. Vous obéissez à un homme. Moi, j'obéis au représentant du Christ. Et c'est très vrai, ça. Et donc, plus j'ai conscience de mon autonomie, plus ma liberté grandit, et plus mon obéissance devient héroïque et divine. Si vous obéissez parce que vous avez au-dessus de vous quelqu'un de plus intelligent que vous, Votre obéissance est humaine. Si vous obéissez parce que l'autorité qui est auprès de vous est divine, votre obéissance est divine. Alors, entrons maintenant dans l'autre aspect de la personne humaine. La personne humaine, comme elle est un tout, et non pas un principe, un tout concret. Je suis. J'existe. Je suis recherchant la vérité. Voyez très bien que quelqu'un qui ne peut pas dire ça, en toute vérité, qui ne peut pas dire « je suis », recherchant la vérité, n'est pas une personne parfaite. Je regrette, mais c'est comme ça. Il est un mouton de panurge. Il est bon à être téléguidé. Il est bon d'être un esclave. Pour lui, son bien, ce serait d'être dépendant de quelqu'un de plus intelligent que lui. Mais il faudrait qu'il soit intelligent pour reconnaître ça. La plupart du temps, ceux qui ne recherchent pas la vérité s'enferment en eux-mêmes et croient plus aux opinions qui viennent d'eux qu'à la recherche de la vérité. Et donc, ils deviennent des gens têtus. C'est ça l'entêtement. L'entêtement, c'est faire passer devant toujours ce qui vient de moi. Je ne cherche plus la vérité, je suis sincère. Alors, il y a une sincérité de granit, il y a une sincérité d'argile. Ça dépend de quoi on est fait. Il y a des sincérités multiples selon les tempéraments. L'autre aspect de la personne, je suis capable d'aimer. Alors, première chose à noter qui complète ce que nous avons déjà dit, c'est que l'amour ne structure pas. Ah, je vais vous apaiser. Mais l'amour finalise. C'est à la fois plus et moins. L'amour finalise. Je ne suis finalisé que par l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire d'être finalisé? Finalisé, c'est découvrir un bien supérieur à moi qui est capable de me donner le bonheur. Capable de m'épanouir pleinement, qui est capable de me permettre d'aller jusqu'au bout de toutes mes capacités, de toutes mes virtualités. Être finalisé, c'est cela, c'est donner à sa vie humaine une signification ultime. On ne peut pas aller plus loin. C'est le bien qui m'attire et qui réalise en moi un amour. Et comme personne humaine est complexe. Je peux donc tout de suite, et je dois le faire, comprendre que toutes mes capacités d'aimer, toutes me permettent de me dépasser. Et l'amour permet le dépassement, tandis que la recherche de la vérité ne fait pas le dépassement, mais me structure. Oui, autre humain, digne de moi. La dignité de la personne se prend du côté de l'intelligence. Ça, c'est la dignité de la personne. Oui, le mot dignitas revient toujours sous saint Thomas quand il parle de la personne. Regardez dans le De Potentia, c'est là où saint Thomas parle le mieux de la personne humaine. Il prend toujours la dignité de la personne humaine. Aujourd'hui, on dirait les valeurs. Comme le mot valeur est très vague, j'aime mieux pas l'employer. Philosophiquement, la philosophie des valeurs, c'est une philosophie guinée, c'est une philosophie idéaliste. Donc il vaut mieux pas employer ça, c'est un peu équivoque. Laissez aux hommes politiques le soin d'employer les valeurs. Mais philosophiquement, non, je dis aux hommes politiques, parce que les hommes politiques sont obligés, quand ils font des propagandes politiques, d'employer la rhétorique. Un homme politique ne pourrait pas faire de la philosophie pour attirer les suffrages. Non, très mauvais procédé. Il doit employer la rhétorique pour flatter. Il doit le faire, étant donné la bêtise des hommes. Alors il doit flatter. Il le fait consciemment. Ce qui est dangereux, c'est quand il le fait plus consciemment. Ah là, c'est dangereux. Il le fait consciemment à petite dose ou grande dose. Ça dépend du degré d'imbécilité devant lequel il se trouve. Elle ne le dit pas, évidemment. Mais quand il flatte avec force, c'est qu'il se trouve de gens incapables de comprendre autre chose. Alors il flatte. Pour leur bien. Donc c'est pour leur bien, parce qu'il juge, s'il se présente, que c'est un bien pour ses électeurs d'être élus. Donc on ne se présenterait pas, honnêtement. Il voit que la France est dans une situation terrible. Il faut la sauver. Bah, qu'est-ce qui peut la sauver ? Vous voyez, c'est très intéressant, tu vois, on doit suivre les événements politiques, sauf au noviciat simple. Mais en dehors du noviciat simple, dès qu'on est prophète, on est obligé. Les sœurs contemplatives, elles n'en ont jamais besoin, parce qu'elles se laisseront couper la tête pour la gloire de Dieu. Pas besoin d'autre chose. Or, elles ne pourraient rien dans le monde d'aujourd'hui. Elles peuvent sauver à la manière de Judith, peut-être. Peut-être. En leur donnant une épée. C'est leur frère qui leur donnera une épée pour couper la tête du tyran. N'est-ce pas ? Selon l'écriture, chaque fois que les situations sont tragiques, c'est la femme qui sauve. Toujours. C'est pas l'homme. C'est la femme. Et la femme, pour nous, c'est Marie. Donc c'est la contemplative d'une certaine manière. Une contemplative qui peut avoir une activité, mais une contemplative qui a un lien direct avec Marie. Marthe jouait un rôle merveilleux là-dessus. Il ne s'agit pas de faire de la politique, il s'agit de comprendre que le bien d'un pays est dans les mains de Dieu. Il y a des niveaux différents de bien. Et chaque fois que le bien est présent, il suscite en moi un amour. Et chaque fois, je vois un certain dépassement de ma propre personne. Par l'amour, je m'engage. Par l'amour, j'entre dans le combat. Par l'amour, je me fortifie. Par l'amour, je m'accomplis. Et pour comprendre la hiérarchie de ces différents... dans cette recherche de la vérité, je peux préciser le bien premier, radical, fondamental de la personne humaine. Je dis bien, c'est l'amour d'amitié qui fonde le foyer. La procréation demeure le bien fondamental. C'est très, très important de comprendre cela. La procréation montre comment l'homme a une capacité de dépasser sa corruptibilité. C'est le premier dépassement. Il peut avoir des fils et des filles. Il peut avoir des enfants qui continuent ce qu'il est. Vous voyez, c'est le bien le plus fondamental de la dignité humaine. C'est pour ça que quand on touche, quand on relativise ce bien, il y a d'immenses conséquences. Comme toujours, relativiser un fondement, c'est ébranler tout l'édifice. Or, la recherche de la vérité me montre que la famille, fonder une famille, que la famille est le bien le plus naturel et connaturel à l'homme, et encore plus à la femme. Un homme peut plus facilement dépasser la famille que la femme. Vous voyez, on me posait la question à quel moment on parle de l'homme et de la femme, et je crois que le premier moment, au point de vue philosophique, c'est ici. C'est pas dans la recherche de la vérité. Est-ce qu'un homme est plus intelligent qu'une femme? Je n'en sais rien. Ça dépend quelle femme, ça dépend quel homme. Hein, je suis persuadé que parmi les contemplatifs, il y en a qui sont plus intelligentes que certains frères. Je n'en doute pas. Et que parmi les frères, il y en a qui sont plus intelligentes que certaines sœurs. Je n'en doute pas. Ça ne me pose pas la question. Il ne faut pas se poser la question. Elle ne signifie rien. On peut dire qu'il y a des modalités de connaissance différentes. C'est tout. Mais c'est par rapport à l'amour. Alors là, c'est beaucoup plus important. Mais ça ne touche pas à la dignité. C'est la même dignité de personne. Mais c'est le dépassement. C'est la finalité. Normalement, la femme a un sens dans sa personne, un sens beaucoup plus aigu que l'homme de sa finalité. Et de cette finalité première, fondamentale, qui est la famille. C'est le bien le plus radical de l'homme d'avoir des enfants. C'est le bien le plus connaturel. C'est la finalité de sa vie végétative. La vie végétative est finalisée par la procréation. Et c'est pour ça que celui qui, pour telle ou telle raison, je prends un point de vue philosophique, dit « je ne me marierai pas, je vivrai seul », pour la recherche de la vérité, par amour pour Dieu, pour le Christ. Celui-là, il faut bien le reconnaître, délibérément, accepte une taille radicale dans l'ordre de la personne humaine. Avoir des enfants, le bien des enfants, est un bien fondamental, radical. Puisque c'est ce qui finalise ma vie végétative. Donc ce qui donne un sens, pour bien le comprendre, ce qui donne un sens plénier à ma vie végétative. Ma vie végétative peut avoir un autre sens. Je mange pour pouvoir vivre et pour pouvoir adorer et contempler. Et là, ma vie végétative a un sens. C'est sûr. Mais ce sens, vous voyez, il est au-delà de la vie végétative. Il n'est pas immanent. Il n'est pas substantiel. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup moins fort et moins présent. Tandis que la finalité, avoir des enfants, c'est une finalité immanente à ma vie végétative. Et c'est pour ça que ça demeure tout le temps. Il faut la taille d'hiver, la taille de printemps, la taille d'été et la taille d'automne. Ceci à 18 ans, à 25 ans, à 45 ans, et ainsi de suite. Ma vie végétative demeure tout le temps. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'il peut y avoir des poussées volcaniques qui n'étaient pas prévues du tout. Et c'est ce qui fait dire aux psychologues, faire des vœux à 20 ans, c'est la folie. Concerto totalitaire, au point de vue psychologique. Pas la peine de discuter. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors quand on dit ça, ils sont complètement raplabla. Tout à fait d'accord avec vous. Ça ne peut se comprendre qu'à un point de vue divin. Ça peut se comprendre qu'à ce point de vue-là. Dieu nous permet de faire des folies. Parce qu'il est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et en faisant des vœux jeunes, on donne ce témoignage que rien n'est impossible à Dieu. Donc, il faut bien comprendre cette première, ce premier amour. C'est pour ça que c'est si radical, si profond, et que rien ne peut le remplacer. Rien du tout. Il faut accepter ça. C'est la coupe. Très nette. Il faut avoir pleine conscience. Si je veux être une personne, je dois avoir pleine conscience de ça. Si je n'en ai pas pleine conscience, il y aura tout le temps des refoulements. Et qui pourront à certains moments me rendre complètement malade. Tellement c'est radical. Me détraquer dans ma vie végétative. Pourquoi de temps en temps ça peut exister? Certains entrent avec un très grand idéal. Vous voyez, l'idéal ne tient pas devant le réalisme de la procréation. Et l'idéal sera un surmoi. Alors si j'entre avec un très grand idéal, ben oui, au bout de quelques années, tout ça peut dégringoler. Parce que la vie végétative par la procréation atteint un fruit substantiel et l'idéal ne tient pas devant la réalité. c'est le danger des valeurs. Parce que les valeurs ont un sens idéal pour une philosophie idéaliste. Les valeurs se ramènent à la finalité pour celui qui a un sens réaliste. Oui. Il ne faut pas nécessairement dire je supprime toutes les valeurs. Non, c'est pas ça. En tant que philosophe, je n'en parle pas. Pour ne pas créer des équivoques. Mais en tant qu'homme, parlant à d'autres hommes qui peuvent comprendre qu'un certain langage, je l'emploie. Et on est conscient de l'employer. Parce qu'il faut parler le langage de tout le monde. Dès que vous faites de la rhétorique, vous parlez le langage de tout le monde. Si vous ne parlez pas le langage de tout le monde, votre témoignage ne portera pas. Et si vous parliez le langage du XVIIe siècle, je vous affirme que les jeunes ne seraient pas très, très attirés. Non, le langage de Bossuet. Ce serait bien, vous verriez leur tête. Donc, première finalité, le point de vue de l'enfant. Et l'enfant, c'est le mariage, c'est la famille, jusqu'à nouvel ordre. Et dans le réalisme, dans une philosophie réaliste, je ne peux pas couper la procréation de la famille. Ça aussi, c'est important à souligner aujourd'hui. Parce qu'on voudrait supprimer la famille et reprendre le point de vue platonicien. Parce que tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est pas original, Platon l'a dit. C'est exactement la République de Platon aujourd'hui. Alors pour comprendre ce qui se passe, il vaut mieux le regarder dans Platon que chez nos gouvernements. Parce que c'est un peu mieux dit par Platon. C'est dit avec plus de lucidité, plus d'intelligence. De l'autre côté, c'est du pragmatisme. Tandis que là, c'est pas du pragmatisme. Le pragmatisme se fonde tout le temps sur des aspirations humaines. Platon se fonde sur une aspiration humaine profonde. L'aspiration esthétique, artistique. L'homme désire toujours être un artiste. Toujours. Surtout s'il n'est qu'un petit artiste. S'il est un grand, il n'y a pas de danger. Mais si c'est un petit artiste, il cherchera l'originalité. Alors c'est un concours d'originalité qui va se passer au Parlement européen. Celui qui ira le plus loin possible dans l'originalité. Pour paraître avant-garde. Puisque c'est ça la qualité aujourd'hui. C'est même plus la sincérité, c'est d'être avant-garde. La sincérité est encore quelque chose d'humain. Avant-garde, c'est la jalousie. Alors, c'est pas fameux. Et c'est ça qui commande tout cela. Alors, il faut comprendre que la procréation chez l'homme et chez la femme est liée au mariage. À cause de l'éducation. C'est à cause de l'éducation. À cause de l'éducation, il y a un lien nécessaire entre les deux. Puisque vous êtes responsable du petit. Et le petit a besoin de sa mère. Et le petit a besoin d'une famille. Je parle au plan philosophique ici. Parce qu'il peut y avoir des finalités plus importantes. Et justement, là, ça demande beaucoup de réflexion pour être sûr que ces finalités plus importantes soient de vraies finalités, qui l'emportent sur l'autre. Étant donné que la grâce ne détruit pas la nature, mais la dépasse. Alors, bien, second bien, au niveau de notre vie sensible et passionnelle. Il y aura un amour qui va s'éveiller. On va se laisser séduire. La passion aime la séduction. Parce que la séduction est d'ordre sensible et la passion est d'ordre sensible. C'est dans l'ordre passionnel que la séduction joue le plus. On est séduit. Et la séduction, normalement, demeure tout le temps. Évidemment, il y a un âge où la séduction joue plus. Je crois. Il me semble qu'on peut dire qu'il y a un âge où la séduction joue plus. La jeunesse. La jeunesse, c'est l'âge des passions. Jusque 45 ans. Hein. Vous êtes jeune jusque 45 ans. Et jusque 45 ans, les passions peuvent encore s'éveiller et se manifester. Il y a un bien au niveau passionnel qui est cet amour-passion. Cet amour-passion qui a 10 visages. Alors ce serait très intéressant à le montrer là. C'est toujours pour connaître la personne. Comme il y a les 10 prédicaments qui sont les 10 visages de l'être, il y a les 10 visages de l'amour passionnel. Saint Thomas fait une étude extrêmement poussée des passions. Pour beaucoup, c'est la manière d'entrer dans la pensée de Saint Thomas. C'est par là que Saint Thomas séduit. Et quand vous étudiez les passions chez Saint Thomas, vous êtes pris. Si vous comprenez, vous êtes saisi. Je me souviens d'avoir fait l'épreuve auprès de psychanalyste freudien. Il aura fait un cours des 11 passions de Saint Thomas. Alors leur cri, au Moyen-Âge, on connaissait tout cela. Comparativement aux analyses modernes, c'est bien plus fouillé. C'est bien plus fouillé. Les analyses modernes au point de vue passionnel sont assez grosses. L'irascible, concupiscible. Alors voilà les changements. Tandis que Saint Thomas étudie les 6 passions du concupiscible et les 5 passions d'irascible. 6 et 5, ça fait 11. Et comme la première passion, c'est l'amour, vous avez donc 10 visages. Vous avez donc 10 séductions possibles. Vous n'avez jamais pris conscience de ça. Mais prenez conscience maintenant. Il y a 10 séductions passionnelles. Je vous en nomme quelques-unes, vous allez tout de suite comprendre. Puisque il y a 10 manières d'aimer passionnément. Il y a le désir. Tout le monde comprend. Il y a la fuite. En face du mal, je fuis. C'est une manière d'aimer. Les gens qui vivent négativement vivent plus de la fuite que de l'attraction. Ils sont dans un état, ça se sent très bien, ils sont dans un état de peur constante. L'état de fuite. Oh, je vais m'engager. Parce que je m'approcherai du gros chien. Et le gros chien, c'est la figure de tel ou tel. Figure d'un chien méchant. On a tu étais mordu. Alors, ce serait intéressant, quelqu'un qui a un petit peu le sens de l'ironie et un peu le sens des mettrait les 10 visages de l'amour et mettrait les 10 gueules de chien. S'il y a 10 visages de l'amour, le visage de l'amour qui est caché, le visage du désir, le visage de la fuite, le visage de la joie, le visage de la tristesse. Le visage de la haine. Il y a leur voiture irascible. C'est un chien à grosses dents et des molaires particulièrement puissantes. Alors vous avez une description étonnante dans Sénèque sur la colère. C'est une chose qu'il faut lire, ça se lit comme rien, comme un roman, et c'est magnifique. Quand il parle de la colère, alors la colère, l'audace, il y a un visage d'audace dans l'amour. Quand on aime, on est audacieux. Et on peut très bien aussi, quand on aime, avoir la crainte de se tromper, de prendre un faux chemin. Quelqu'un qui manque de crainte tombe dans tous les panneaux. Il oublie qu'on veut tout le temps le tromper. Il croit qu'il n'y a personne qui veut le tromper. Il y a le visage du désir, de l'espérance. Et il y a le visage du désespoir. Et le visage de la colère. C'est très intéressant à faire, ça. Vous voyez, et je vous dis, c'est une manière d'entrer dans Saint-Thomas. Dès que vous aurez un tout petit peu de temps, entrez dans les passions dans Saint-Thomas. Prima secundae. Saint-Thomas est le premier théologien qui a fait ça. C'est le théologien des passions. Alors quand on dit que Saint Thomas est loin de la psychologie, hein, c'est gros, c'est gros. C'est une psychologie bien plus fine que toutes les psychologies. Mais évidemment, il faut comprendre, parce que c'est une analyse. Aujourd'hui, on veut l'efficacité tout de suite. Alors on veut des procédés. Alors on vous donne des lois. D'où la séduction de la psychologie. Alors que quand on a le temps, on analyse. Et chacun d'entre nous, nous essayons de comprendre l'application. Et l'analyse, c'est les 11 passions. Les 10 visages d'amour. Ah, vous voyez, ça se recoupe merveilleusement. Et on peut très facilement découvrir ça dans sa vie. Hein. Une relecture de ma vie passionnelle à la lumière des 10 passions. Ça, c'est très intelligent. Et c'est une relecture de ma vie passionnelle. Le petit déjeuner du matin, vous croyez que c'est pas passionnel? Oh là là! On le voit bien. On a faim. Et c'est le carême, hein? Contradictoire. On devrait toujours, pendant le carême, avoir marche arrière. Hein? Parce que comme ça, ça irait mieux. Mais là, imaginons, vite, vite, dimanche. Dimanche, on se rattrape. Et alors, on étudie ça. Pourquoi ça se fait ça? Comment se fait-il? J'ai faim. J'ai un amour, un appétit sensible. Et ce désir augmente dans la mesure même où il n'est pas satisfait. Donc le temps de carême, c'est d'exciter les passions. Et c'est ce qui est dit. Il va au désert pour être tenté. Vous n'aviez jamais compris ça. Pour être tenté. Parce que pendant le désert, les passions augmentent. Mais pour être tenté et dominer la tentation. Celui qui n'a jamais accès. C'est vrai que le carême augmente les tentations. Il y a des tas de choses qui reviennent pendant le temps du carême. Point de vue passionnel. Évidemment, si vous ne le faites pas, ben oui, ça sera votre petit déjeuner tous les matins. Puis vous pourrez vous installer là toute la journée. Alors, il n'y a plus de passion à propos du concupiscible. Et quand le concupiscible est bien dressé, l'irascible augmente. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Ça veut dire ventre affamé est irascible. C'est ça que ça veut dire. Quand vous avez bien mangé, mais vous êtes bon. Vous savez bien, c'est le système de demander les permissions après le repas. Jamais demander les permissions à un moment où on sait que son supérieur est tendu. Jamais. C'est psychologique, ça. Il suffit d'être un tout petit peu éveillé pour savoir ça. On tient les vies. Ça, c'est les passions. Alors, la personne humaine implique toute cette étude des passions. Et voir qu'au niveau passionnel, c'est l'anarchie complète. Chacun d'entre nous, nous portons un foyer d'anarchie. Et le démon le sait très bien. Le prince de la psychologie. Le démon sait très bien qu'il y a en nous 11 passions. Et peut tirer les ficelles. Il les tire. Puisque c'est anarchique, le domaine des passions demande d'être dépassé. Et le domaine des passions est dépassé grâce à l'acquisition des vertus. La dignité de la personne humaine réclame les vertus. Parce que ce terrain anarchique est source de toutes les fièvres paludiennes. Et si je laisse ce terrain avec toutes les fièvres paludiennes, je risque d'être complètement dépassé. Là, je situe la nécessité d'être éduqué. Normalement, je ne peux pas seul dépasser mes passions. Il faut quelqu'un de plus fort que moi et de plus lucide que moi. Parce que quand je suis dans ce terrain anarchique des passions, je ne suis pas du tout lucide. J'ai aucune lucidité. La passion ne vous rend pas lucide. Un être passionnel, passionné, est un être qui n'a pas de lucidité. Il suffit de lui dresser devant lui, hein, comme on fait pour les taureaux, un drap rouge pour qu'il fonce. Alors il faut découvrir le drap rouge pour chacun, parce qu'il a des modalités différentes. Et c'est très vrai, chacun d'entre nous, nous sommes vulnérables, particulièrement à tel ou tel bien sensible. Même nos supérieurs. Parce qu'il reste des êtres passionnés, heureusement. Si nos supérieurs n'étaient pas des êtres passionnés, ce serait dommage. Mais ces passions demandent d'être éduquées. Les passions font des alliances très particulières avec l'imaginaire. Voyez, alors tout ce terrain passionnel, imaginaire, est un terrain de fièvre paludienne, d'un terrain qui n'est pas cultivé et qui est cultivable. Et jusqu'à la fin de notre vie, ce terrain passionnel demandera d'être éduqué. La différence, c'est quand on a des supérieurs, on est éduqué par eux. Quand on n'en a plus, on doit être auto-éduqué. doit se laisser éduquer, comme dit saint Benoît, par ses petits novices. Attention, il ne faudrait pas dire au dernier novice, tu viendras m'éduquer, surtout pas de... Parce que là, on ferait des choses étonnantes pour supprimer les complexes des supérieurs. Je me souviens, c'est une histoire vraie, dans une trappe que je nomme pas, avec un psychanalyste que je nomme pas. Mais l'abbé avait remarqué que ses novices avaient peur de lui. Ce qui est assez normal, surtout quand on connaissait l'abbé. Qui était particulièrement conscient d'être abbé. Quand on est avis, c'est toujours le danger. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous le donne en mille. Authentique. Pour supprimer les complexes. Il a dit, eh bien, les novices vont jouer au saut de mouton avec leur abbé. Il a demandé à l'abbé de se mettre à quatre pattes. Et le novice passe dessus. Voyez comment aujourd'hui certains veulent éduquer ce terrain de fièvre paludienne. Et je vous affirme que c'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Oui, jusqu'où ça peut aller l'aberration. Supprimer les complexes. Mais je crois que ça ne supprime rien du tout comme complexe. Hein. Mais ça peut les augmenter. Parce que vous entrez dans le jeu. C'est pas par le jeu. Le jeu. Saut de mouton. Que vous allez supprimer les complexes. Vous supprimerez les complexes en découvrant la finalité. Que tout est passion. Bon, les passions sont particulièrement sensibles en face de l'autorité. Parce qu'on a de mauvais souvenirs. La dernière gifle de notre père ou de notre frère aîné. La dernière chose qui nous a profondément humiliés. Alors on a des complexes comme ça, terribles, qui peuvent dater de 4 ans, et qui sont restés. Parce qu'on est resté devant l'autorité, sans voir que l'autorité était en vue de la finalité. Et l'autorité est devenue un pouvoir, et le complexe est né avec le pouvoir. On a confondu les deux. Alors dès qu'on analyse, on peut supprimer. Mais prendre des choses comme ça, c'est niveler par le bas. C'est niveler par le bas. Vous voyez, on a beaucoup ri des choses anciennes, des pénitences de chapitres. La pénitence de chapitres que j'ai encore connue. Donc c'est pas vieux. C'est vieux pour vous, mais c'est pas vieux pour moi. On avait comme pénitence, quand on s'accusait de pousser dans, d'avoir été trop autoritaire vis-à-vis de ses frères. Dès qu'on exerce un peu l'autorité, quand on est jeune, c'est ce qui arrive toujours. Soit un peu de mauvaise humeur en exerçant l'autorité. Alors, la pénitence classique, c'était celle-là. À la sortie du chapitre, vous vous mettrez par terre en feignant et tout le monde passera au-dessus de vous. Vous voyez, le saut de mouton. Mais religieux, c'est pas du tout la même chose. C'est s'humilier devant ses frères et être par terre. Ça a l'air de rien, mais c'est excellent. C'est excellent de voir 70 frères qui vous passent dessus. Chaque fois, on risque de recevoir un coup de pied. Ça se fait plus. Ça fait partie des mœurs habituelles. Parce que les fièvres paludiennes ont un peu changé aujourd'hui. Alors, on voit d'autres procédés. Mais c'est pour vous montrer que le corps est lié à toutes les passions. Et donc, la correction des passions implique toujours quelque chose de corps.